Bonjour à toutes et à tous, Christophe Julien pour vous accueillir dans La Pierre à Ancre, émission de rentrée. Et ma foi, pour cette émission de rentrée, c'est un véritable coup de cœur que je vous propose aujourd'hui, avec une lecture, une découverte pour vous, qui vous apportera, je l'espère, autant de plaisir qu'à moi lorsque j'ai eu ce livre entre les mains. Pierre Gondran d'Iremoux vous propose « Gestes perdus ». C'est publié à l'association francophone de Haïku, collection Solstice. Les Solstices sont d'adorables petits livres, mis en plage, si je ne m'abuse, par Isabelle Asuncelo. Il y a très très belles photos noires et blancs également. Et puis en seconde partie d'émission, eh bien ma foi, vous retrouverez notre ami Dominique Chipot pour une nouvelle saison de chronique autour des disciples de Masaoka Shiki. L'an dernier, Dominique nous a parlé justement de la réforme du haïku autour de Masaoka Shiki. Eh bien, il sera question donc de ses disciples cette année. Voilà, ben je vous propose à présent eh bien, de découvrir donc « Gestes perdus » de Pierre Gondran, dit Remous. Il s'agit finalement de souvenirs, car Pierre Gondran, né en 1970 à Limoges, eh bien, a grandi dans la campagne limousine, entouré d'animaux, d'aquariums et de plantes. Il deviendra poète sur le tard. Pour notre plus grand plaisir, ces gestes perdus dont il est question dans le livre sont ceux qu'accomplissaient autrefois ses grands-parents dans la ferme familiale. C'est un autre monde qui se révèle à nous, un monde englouti désormais. Les enfants dans l'arbre balancent leurs pieds nus, écorchés. Les enfants dans l'arbre balancent leurs pieds nus, écorchés. À l'entrée du champ, ils crachent dans ses mains deux fois. À l'entrée du champ, ils crachent dans ses mains deux fois. Pierre a aiguisé contre l'âme de faux, geste cent fois répété. Pierre a aiguisé contre l'âme de faux, geste cent fois répété. Ses épaules tournent, la vieille lame siffle, mille tiges à terre. Ses épaules tournent, la vieille lame siffle, mille tiges à terre. Les ombres s'allongent au rythme régulier et tranchant de la faux. Les ombres s'allongent au rythme régulier et tranchant de la faux. Je cherche un bleuet dans le champ à moissonner. Peut-être le sauver. Je cherche un bleuet dans le champ à moissonner. Peut-être le sauver. Les bœufs roux approchent, l'un meugle, l'autre non, toujours. Les bœufs roux approchent, l'un meugle, l'autre non, toujours. Enfin rentré, avec lui le parfum du foin coupé. Enfin rentré, avec lui le parfum du foin coupé. Ma main dans sa main, la peau épaisse et noire, une perle de sang. Ma main dans sa main, la peau épaisse et noire, une perle de sang. Quelle joie de donner aux poules, je me souviens, l'odeur du grain. Quelle joie de donner aux poules, je me souviens, l'odeur du grain. Tant de poussins qui courent entre mes jambes, as-tu bien fermé? Tant de poussins qui courent entre mes jambes, as-tu bien fermé? Le coq, ivre de colère, ma lèvre fendue. Le coq, ivre de colère, ma lèvre fendue. Sur la cuisinière sifflent trois bouilloires de fer blanc. Mémé donne le bain. Sur la cuisinière sifflent trois bouilloires de fer blanc. Mémé donne le bain. Un matin d'été, abeilles et sirfes vrombissent, la peau sur le lait. Un matin d'été, abeilles et sirfes vrombissent, la peau sur le lait. Nu-pieds dans nos bottes, on remplit les seaux de mûres, nos avant-bras griffés. Nu-pieds dans nos bottes, on remplit les seaux de mûres, nos avant-bras griffés. Le miel nouveau est mis en pot, reflet d'or au mur de faïence. Le miel nouveau est mis en pot, reflet d'or au mur de faïence. Chercher des patates dans la froide fruitière, terreur noire. Chercher des patates dans la froide fruitière, terreur noire. Crac, crac, patiemment, elle épluche les cardons, la pièce au parfum vert. Crac, crac, patiemment, elle épluche les cardons, la pièce au parfum vert. Va donc me cueillir deux, trois brins de persil. Elle tend un couteau. Va donc me cueillir deux, trois brins de persil. Elle tend un couteau. Le papier journal, taché de sang, elle me laisse vider les gardons. Le papier journal, taché de sang, elle me laisse vider les gardons. Des girolles oranges, elle coupe le bout du pied, un si vieux couteau. Des girolles oranges, elle coupe le bout du pied, un si vieux couteau. Je te regarde coudre seul en silence, plic-ploc dans l'évier. Je te regarde coudre seul en silence, plic-ploc dans l'évier. Une odeur de camphre dans la chambre du pépé, ventouse sur le dos. Une odeur de camphre dans la chambre du pépé, ventouse sur le dos. Le plus beau potager du monde et sa cuisine en terre battue. Le plus beau potager du monde et sa cuisine en terre battue. La vieille tata ne s'est pas levée, c'est cela, la mort. La vieille tata ne s'est pas levée, c'est cela, la mort. Toc! Sur la nappe à carreaux, un hanneton poudreux. sur la nappe à carreaux, un hanneton poudreux. Goutte de rosée cueillie ce matin, ma main dans les herbes hautes. Goutte de rosée cueillie ce matin, ma main dans les herbes hautes. 2 minutes sous la pluie, nous dansons autour de lui, l'énorme crapaud. 2 minutes sous la pluie, nous dansons autour de lui, l'énorme crapaud. Une taupe morte, on la couvre de fleurs de pissenlit. Une taupe morte, on la couvre de fleurs de pissenlit. Aujourd'hui, j'ai vu la première goutte tomber sur l'étang. Aujourd'hui, j'ai vu la première goutte tomber sur l'étang. Jambes ballantes, le courant s'arrondit autour du mollet. Jambes ballantes, le courant s'arrondit autour du mollet. L'enfant disparaît dans la fourrure du grand chien. Une photo de moi. L'enfant disparaît dans la fourrure du grand chien. Une photo de moi. Et ce dernier, aux premières places devant la cheminée, les chiens du pépé. Aux premières places devant la cheminée, les chiens du pépé. Geste perdu. Haïku de Pierre Gondrandy-Remous, c'est paru à l'Association francophone de Haïku, collection Solstice. Pour l'obtenir, il faut donc tout simplement s'abonner à l'Association francophone de Haïku. Et pour cela, aller sur le site www.association-francophone-de-haïku.com. Voilà un musicien qui n'était pas très très loin finalement de l'esprit du haïku, c'était donc Eric Satie. Pour clore cette émission, je vous propose de rejoindre notre ami Dominique Chipeau qui lance sa nouvelle saison en évoquant les disciples de Masao Kashiki, qui à l'aube du XXe siècle réforma le haïku.
Nous avons appris l'an dernier que Masao Kashiki est le père du haïku moderne pour avoir révolutionné le genre en y finissant de nouveaux principes au fil de ses publications de 1895 à 1902. Bien que les chroniques précédentes soient disponibles en podcast sur le site de Radio Grand Ciel, je vais, en guise d'introduction, résumer quelques points essentiels à connaître pour mieux comprendre l'évolution du haïku japonais au XXe siècle. Shiki a d'abord établi pour principe, en 1895, que le haïku est un art et qu'il peut donc être critiqué comme tout autre objet littéraire et selon les mêmes critères esthétiques, méthode qu'il a appliquée tout au long de sa carrière. D'un point de vue formel, Shiki a remis en cause le rythme des 17 sons et l'usage du mot saisonnier. Il n'imposait pas le rythme 5-7-5, le jugeant insuffisant à distinguer le haïku des autres littératures, ce que nous constatons d'ailleurs dans certaines publications francophones. Il encourageait plutôt à trouver une harmonie du fond et de la forme et un équilibre entre style et langage, lequel pouvait être familier et pas seulement raffiné comme le prétendaient les conservateurs. Quant au mot saisonnier, Shiki acceptait son abandon ou son libre emploi, c'est-à-dire son lien avec la codification du Saijiki. Le point essentiel de la théorie de Shiki reste cependant la notion de chasei. Il s'agit de transcrire une scène vécue en vue de transmettre au lecteur l'émotion ressentie. Shiki oppose ainsi les haïkus nés de l'expérience, subtil mélange d'expression et de suggestion, à ceux imaginés ou inventés dans le seul but de se conformer au formalisme traditionnel. Solitaire, après l'inondation, pas même un moustique. Masaoka Shiki. Comme Shiki comprenait l'impossibilité de transcrire fidèlement la réalité, il préconisait un certain choix. Pour composer une scène réelle, disait-il, il n'y a pas d'autre choix que de prendre seulement ce qui est beau et d'écarter ce qui est laid. Pour cette raison, la réalité de la scène peut être légèrement modifiée par l'ajout d'éléments étrangers. Un subtil mélange de subjectivité et d'objectivité. Le haïjin pourrait-il être seulement objectif? Pourrait-il représenter finalement la nature où l'objectivité n'est-elle qu'illusoire? La subjectivité de l'artiste n'interviendrait-elle pas dès lors qu'il choisit une scène ou une mise en scène plutôt qu'une autre pour refléter ses sensations? Éternelle question. Kyoshi Takahama, lui, a tranché. Il a été un des premiers disciples de Shiki. En octobre 1898, il a administré le journal Ototogisu, fondé sous la direction de Shiki au mois de janvier 1897 par le haijin Kyokudo, également disciple de Shiki. Si Kyoshi a conservé la ligne éditoriale de Ototogisu jusqu'à la mort de son maître en septembre 1902, il a par la suite ouvert les colonnes du magazine au waka, un poème de 31 syllabes, et à la prose, particulièrement à la littérature d'esquisse, chaseibun, basée sur le principe initialement défini par Shiki pour le haïku. Et, à partir de juillet 1909, il a supprimé de la revue la rubrique consacrée aux poèmes divers, c'est-à-dire non traditionnels, écartant ainsi les compilations de son ami d'enfance, Ekigoto, disciple de Shiki en même temps que lui. Pour mieux se consacrer à ce nouveau style de roman qui le passionne, Kyoshi a délaissé la poésie jusqu'en 1913, où il a renoué avec le haïku afin de contrer l'influence grandissante de Ekigoto, à l'origine du haïku de nouvelle tendance. Il a alors publié deux de ses haïkus dans sa revue Ototogisu, pour exprimer sa volonté de poursuivre l'usage du mot saisonnier et de la forme fixe, caractéristique du haïku traditionnel. La brise printanière, debout au sommet de la colline, l'esprit combatif, écrivait-il. La guerre est déclarée, le haïku néoclassique de Kyoshi contre le haïku de nouvelle tendance de Ekigoto. Un combat sans relâche que Kyoshi a mené contre toutes les tentatives de renouveau du haïku, un combat sans merci allant jusqu'à l'emprisonnement de haïjin pacifiste ou socialiste. 30 ans après, en 1950, lors de la célébration de son 77e anniversaire, Kyoshi a confirmé sa volonté de poursuivre la lutte contre le haïku moderne. L'esprit combatif, toujours vivace, regardez la brise printanière. C'est en 1927 que Kyoshi a adapté le concept de Shiki, considérant que le haïku ne devait pas être une esquisse, comme son maître l'enseignait, mais une esquisse objective. Puis il a proclamé que la seule voie à suivre était celle du kasho furei. Furei signifie composition poétique et kasho désigne littéralement les fleurs et les oiseaux. Il faut comprendre, précision extraite d'un dictionnaire japonais, le monde naturel entourant la société humaine, comme les corps célestes, les montagnes, les rivières et les animaux. Ainsi, selon la doctrine de Kyoshi, le haïkin se doit de chanter avec innocence et objectivité les phénomènes du monde naturel ou du monde humain liés au changement des quatre saisons. Parallèlement à la direction de Ototo Gisu, Kyoshi a continué d'écrire des romans réalistes ou naturalistes de genre chasse et libouille. Et, après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à déléguer ses pouvoirs. En mars 1951, il a confié à son fils aîné, Takahama Toshio, la sélection des poèmes pour Ototo Gisu. Toshio était déjà impliqué dans l'affaire familiale car, dès sa création en 1947, il a présidé la société par action qui était devenue Ototo Gisu. Balançant avec quelqu'un debout, repas à bord du bateau, Takahama Toshio. Aujourd'hui, la revue existe depuis 125 ans et en novembre 2021 est paru le numéro 1500. Elle est actuellement dirigée par Inahata Kotaro, l'arrière-petit-fils de Kyoshi. À partir d'ici, la piste du gibier, seconde floraison, Inahata Kotaro. Ototo Gisu a connu son heure de gloire de l'ère Teicho jusqu'au début de l'ère Showa, servant de tremplin à de nombreux romanciers et poètes et poétesses, car Kyoshi leur avait consacré une rubrique spéciale dans la revue. Et en juin 1930, Ototo Gisu a aidé au lancement du magazine Tamamo, dirigé par la seconde fille de Kyoshi, Oshino Tatsuko. C'était le premier magazine de haïku dirigé par une femme. Saisissant une règle, un enfant joue. L'auberge à la saison des pluies. Ce succès de Ototo Gisu a fait de Kyoshi le plus influent des haïkins conservateurs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cette remarquable réussite ne doit pas occulter le côté sombre du personnage. À suivre.
Comme elle est passionnante, cette histoire du haïku, vous ne trouvez pas, c'est toujours... Finalement, la vieille querelle des anciens et des modernes qui se poursuit à travers les âges. Fin de cette édition de La Pierre à Encre. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour parler encore et toujours du haïku, ce petit poème de la taille d'un canif, mais au tranchant plus redoutable que celui d'un sabre de samouraï. Restez fidèles à l'écoute des programmes de Radio Ranciel, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.